Economica à Nisla.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Eh bien, comme d'habitude, ça ne vous surprendra pas, on commence par une citation. Les moyens de production, la science et la technique, bien qu'ils tendent à se répandre à travers les continents, divisent l'humanité autant qu'ils les unissent. Et ces deux, je me tourne parce que nous avons quelques spectateurs dans le studio, c'est de Raymond Aron, bien évidemment. Nous allons parler d'inflation aujourd'hui. Anne va nous expliquer, Anisla, ce que c'est que l'inflation, ce qu'il faut entendre par là. On en parle beaucoup, on ne sait pas toujours ce que ce mot recouvre. Mais avant, nous allons faire une petite balade dans la presse diverse et variée. Bien, commençant par une information que l'on retrouve un peu partout, mais j'ai choisi celle de Reporter avec deux R et que je pense Anne va avoir à cœur de commenter. Et cette information est la suivante. À partir de ce lundi 6 novembre à 11h25, vous voyez, c'est précis, les femmes travaillent gratuitement. Un calcul fait à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Les chiffres varient, ça pourrait être entre 15 et 20% de différence. Alors on a entendu bien sûr tous les gazetiers en parler, notamment sur les radios et sur la radio publique France Inter, hein, c'est cela.
Oui, c'est ça.
Et qui a un chroniqueur économique qui tous les matins nous donne la bonne parole, qui s'appelle Monsieur Seux.
Dominique,
voilà, je ne l'appelle pas Dominique encore, mais bon, entre économistes peut-être, vous pouvez vous le permettre. Anne, moi c'est ce, et donc ce, c'est cru autorisé à gloser sur cette information en essayant de la minorer, si j'ai bien compris. Je l'ai entendu,
oui, oui.
Hein, d'ailleurs ça m'a fait un peu réagir, mais
oui,
Anne...
Il a fait une chronique hier pour décrédibiliser le mouvement qui demande une égalité salariale sur le ton qu'il a souvent... Les filles, arrêtez vos bêtises, papa va vous expliquer ce que c'est que l'économie et s'en prend notamment à une lettre de diffusion que je recommande à tout le monde pour comprendre notamment l'économie, c'est la lettre de diffusion Les Glorieuses. Donc Dominique Seux nous dit que nous exagérons l'écart de salaire homme-femme. Il a lui-même fait une étude en interrogeant 10 personnes autour de lui. Alors s'il y a des étudiants qui nous écoutent, je vous confirme, c'est pas comme cela que l'on mène une enquête rigoureuse. Donc, Dominique Seux nous dit que la quasi-totalité des personnes qu'il a interrogées ont entendu et compris qu'il s'agirait de l'écart de rémunération entre hommes et femmes ayant des métiers et des postes équivalents dans la même entreprise. Alors, en plus de ne pas être exactement un économiste, c'est un journaliste économique, il n'est pas très très doué en économie et en plus il est misogyne parce que Dominique Seux sous-entend que les femmes sont un peu idiotes, hein, je cite... De façon sûrement involontaire, elles, les féministes, les femmes en général, les femmes mais aussi les féministes, laissent supposer dans le débat public que les écarts seraient aussi considérables à poste et temps de travail identiques. Or, quand on parle d'inégalité salariale, on mentionne trois statistiques. Eurostat, 15,4% représente l'écart de salaire entre les hommes et les femmes pour un équivalent temps plein secteur public et privé confondus et pour les entreprises de plus de 10 salariés. Cette méthodologie permet de rendre compte des différences au niveau européen. Deuxième statistique faite par l'INSEE, 4% représente l'écart de salaire à poste comparable pour la même profession exercée chez le même employeur à temps plein. Même travail mais pas le même salaire. C'est ce qu'on appelle de la discrimination pure. Et même pour cette discrimination pure, il est peut-être important de se battre. Troisième statistique, INSEE, toujours, 24%, c'est l'écart pour tous les secteurs et tous les temps de travail statistiques régulièrement mis en avant par les syndicats. En légitimant donc la statistique de 4% et en dénigrant les autres, Dominique Seux s'emploie à inverser la culpabilité, courant lorsqu'on parle d'inégalité femmes-hommes et qu'on n'est pas tellement féministe. Si les femmes gagnent moins, donc nous explique Dominique Seux à Poste Égal, c'est parce que les femmes n'occupent pas les mêmes postes, c'est parce qu'elles choisissent des secteurs moins lucratifs. Ce serait aussi parce qu'elles ne sauraient pas négocier, qu'elles n'oseraient pas demander d'augmentation, qu'elles n'auraient pas assez d'ambition. En somme, si les femmes gagnent moins que les hommes, ce serait de leur faute. Les inégalités salariales n'existeraient pas vraiment, ou en tout cas ne sont pas suffisamment importantes pour être dénoncées. Donc Dominique Seux, ce grand économiste, comme vous dites, n'a pas lu les travaux du dernier prix Nobel de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel de cette année, octobre, Claudia Golding, qui fait des études sur ce sujet. Et je la cite, pour près des 500 professions répertoriées, donc elle n'a pas interrogé 10 personnes, répertoriées dans le recensement américain, les deux tiers de la différence de revenus fondée sur le sexe proviennent de facteurs au sein même de chaque profession, écrit cet économiste. Alors même si les professions des femmes suivaient la répartition des hommes, si les femmes étaient médecins et les hommes infirmiers par exemple, cela n'effacerait au maximum qu'un tiers de la différence de revenus entre les hommes et les femmes, selon les études de Golding. Ainsi, nous savons empiriquement que l'écart salarial vient d'autre chose, et principalement d'autre chose, c'est notamment ce qu'on appelle le travail cupide. Ce que Golding appelle le travail cupide. C'est un travail qui rémunère de manière disproportionnelle quelqu'un qui met à disposition tout son temps, même son temps libre, parce que cette personne a une totale liberté justement sur son temps et sur ses heures. La personne qui fait des heures supplémentaires le week-end, le soir, gagnera beaucoup plus, tellement plus que même sur une base horaire, elle gagnera plus. Et les femmes, du fait des attentes sociétales qui leur sont imposées, ont moins de flexibilité dans le monde du travail et leur salaire en pâtit. Donc le chroniqueur de France Inter a tort d'affirmer que le vrai combat à mener consiste à réorienter les femmes vers des secteurs plus rémunérés. Non seulement cela ne leur permettra pas d'être payées autant que les hommes, mais en plus cela entraînera un déficit des métiers les plus essentiels dans notre société. Les métiers du soin ou les métiers de l'éducation. Est-ce qu'on a envie d'une société sans institutrices, sans infirmières, avec que des programmatrices informatiques et des traders? Je continue encore là-dessus, il n'y a pas que des économistes qui ont travaillé sur ça, la philosophe.
Vous n'aurez jamais dû mettre jamais. Ce thème à la...
jamais, mais je vais finir, je vais dire encore un petit mot. La philosophe Kate Mann, qui est publiée en français « Quand les hommes ont tous les droits », qui a été traduit par Françoise Boyoux aux éditions Les Petits Matins, 2023, explique que les femmes sont écartées ou délégitimées non pour leur incompétence, mais pour leur hypocrisie, leurs mensonges supposés. Ce procédé explique les mécanismes de dénigrement de la parole des femmes grâce à des stéréotypes sociaux sur la compétence ou la fiabilité d'une classe particulière de personnes. Et Dominique Seux fait la même chose. Il reste enfermé dans ce mécanisme de dénigrement puisqu'il dénigre la parole des femmes lorsqu'il dit que surévaluer l'écart des salaires comme le font les femmes et les féministes en général est un péché véniel. C'est l'expression qu'il utilise dans sa chronique. Il place ainsi la soi-disant erreur des femmes sur le champ de la morale, et en faisant cela, il se place en faiseur ou en défaiseur de vérité. Dominique se donne comme cela du grain à moudre à ceux qui disent que les inégalités salariales n'existent pas, à ceux qui disent que les femmes devraient se retirer du marché du travail pour faire baisser le taux de chômage, à ceux qui s'évertuent à mettre toute leur énergie à freiner l'avancée inexorable, espérons-le, vers l'égalité, car un monde égalitaire ne sera possible qu'avec la vigilance et la responsabilité de toutes et de tous. Donc, je vous conseille de vous abonner gratuitement à la lettre de diffusion Les Glorieuses et à signer leur pétition.
Voilà, vous l'avez compris, au ton passionné d'Anisla, du professeur Anisla, c'était un grand coup de gueule. Nous continuons sur nos brèves en picorant un peu dans la presse. Toujours dans Reporter, le Royaume-Uni vient de distribuer 27 nouvelles autorisations de forage en mer du Nord. Parmi les entreprises qui les ont obtenues, ben vous trouverez Shell et puis Total Energy, des autorisations qui vont à l'encontre des recommandations du GIEC. Voilà, nous ne sommes pas encore sortis des problèmes que nous traitons d'ordinaire et que je traite dans l'émission Arcania. Et puis, tant qu'on y reste... Alors, on va en Italie, là. 3600, vous savez ce que c'est? C'est le nombre d'athlètes qui sont attendus au JO de Milan en 2026. Alors là, on peut s'interroger, comme d'ailleurs pour Paris, combien de milliers de tonnes de gaz à effet de serre émis, de mètres cubes d'eau pompée, parce que là, nous allons sur des jeux d'hiver, d'hectares de terre sacrifiées. Ça va se passer dans les Alpes suisses et on peut s'interroger, effectivement. Et puis peut-être penser à l'annonce que l'on vient d'entendre dernièrement, la candidature des Alpes du Sud, c'est qu'aussi ce sont notre côté, pour accueillir les JO en 2030. Et ben, certains membres d'un collectif qui s'est créé très très rapidement dénoncent une prise de décision très rapide, un peu unilatérale, des présidents de région que sont Vauquiez et Muselier. Les citoyens n'ont pas été consultés. Les locaux réclament un référendum national et diffusent une pétition. Je suis sûr que nous en reparlerons. Dans le monde que j'ai lu que le Made in France était victime à son tour de l'inflation, sujet du jour. Donc les ménages qui surveillent étroitement leurs dépenses aujourd'hui, nous le savons, préfèrent opter pour des produits certes importés, mais meilleur marché. Et face à cette situation, les marques tricolores ont tenté de riposter. Alors nous avons une Madame Cauchy qui a créé le label France à Cluny, en Saône-et-Loire, qui ne propose que des produits tricolores et qui nous dit bah, « l'été 2023 n'a pas du tout tenu ses promesses ». Je la cite « la fréquentation, les ventes et le panier moyen sont en baisse de 20% environ, ce qui n'est quand même pas rien ». Tout se vend moins bien, même les savons à 5 ou 6 euros sont moins bien partis cette année. Voilà aussi une autre conséquence de l'inflation. Je ne m'étends pas plus que ça. Et puis, troisième sujet, là, on va dans le canard enchaîné. Je suis sûr que ce sujet plaira à certains de nos auditeurs dans ce studio. Vous connaissez les EHPAD, hein, qui sont des entreprises très rentables et qui, elles, ne connaissent pas la crise, mais à quel prix? Alors, vous savez, les EHPAD, il y a beaucoup de sociétés, hein, de capitaux, bien sûr, pas des sociétés ou pas des entreprises qui sont rémunérées, payées, organisées, animées par des gens qui dépendent de la manne départementale, de la manne régionale. Eux, ce sont des purs et durs. Alors, vous avez Orpea, vous avez Korian, vous aviez Bridge, vous avez Medicharm même, vous voyez le beau nom. Les pensionnaires, justement, comme le dit finement le canard, ne se portent pas comme un charme. Le 27 octobre, le ministère des Solidarités a annoncé que le groupe privé, qui loge quand même 2000 résidents, faisait l'objet de deux enquêtes, l'une de l'Inspection générale des finances, l'autre de celle des affaires sociales. Alors, on s'est aperçu d'abord que le gestionnaire a été soumis à un fonds vautour, souhaitant, et c'est ce qu'il écrit, multiplier sa mise au minimum par 2 sur 5 ans. Donc vous doutez un peu de ce qui s'est passé. On a fait beaucoup d'économies sur les têtes grises de nos anciens. Des contrôles ont révélé des couacs à différents niveaux, notamment au temps de présence effective des personnels auprès des résidents, qui étaient des plus réduits, maltraitants, sonnettes d'alarme débranchées, avec au bout du fil des patients qui sont abandonnés dans leur couche et donc dans leur selle pendant la nuit entière, des matériels défectueux qui ont entraîné des chutes mortelles, ce n'est pas rien. Ça a été relaté par l'Humanité du 30 octobre. Et puis, quelques jours plus tôt, on apprenait qu'un groupe privé qui s'appelle Emera, celui-là, et qui compte plusieurs centaines de maisons de retraite en Europe, faisait aussi l'objet de plusieurs plaintes pour maltraitance. Erreur notamment dans l'administration des médicaments, chute et dénutrition extrême. Et ce problème de dénutrition concernerait 30% des locataires des EHPAD, sachant que certains établissements consacrent au repas moins de 3 euros par pensionnaire et par jour. Je me tourne vers nos visiteurs, mais ils ont l'air d'acquiescer, donc apparemment ils connaissent bien le problème. Et puis on va citer le principal, qui est Andrés Atenza, notre vice-président et grand spécialiste de cette question. Anne, nous passons au sujet du jour. Maintenant que vous êtes bien chauffée sur Dominique Seux, vous devez être en voie pour nous parler de l'inflation. Alors l'inflation, a priori, c'est la hausse des prix, mais il faudrait que vous nous en disiez plus. L'inflation, comme on dit à Toulouse, qu'est-ce que
est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel ça pose un problème? Et puis pourquoi ça pose problème? C'est la seconde émission qu'on fait sur l'inflation et je pense, oui, que c'est important de réexpliquer ce que ça veut dire. Déjà, et en économie, je le dis souvent à cette radio, derrière tout phénomène économique, il y a des êtres humains. Les prix ne montent pas tout seuls. Dire que le prix de l'énergie a augmenté 30% ou de dire que les dirigeants de Total ont augmenté le prix de l'énergie de 30%, c'est pas exactement la même chose.
Vous avez vu qu'ils sont bons avec nous, les gens de Total, ils ont bloqué les prix quand même de l'essence à la pompe.
Oui.
On n'arrive pas tout à fait à 2 euros.
Oui, on n'arrive pas tout à fait à 2 euros. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qui peut augmenter son prix? Est-ce que tout le monde peut augmenter son prix? Est-ce que lorsqu'un producteur augmente son prix, il y a aussi un autre impératif, il doit continuer à vendre autant, voire plus, à ce même prix, et donc avoir des recettes totales plus élevées, puisque les recettes, ce sont les prix multipliés par les quantités vendues.
Alors justement, une incidente, Anne, mais vous parlez de quantité, on a vu, et ça a été prouvé, que certains avaient maintenu leur prix, mais en diminuant les quantités, à l'insu du consommateur.
Ah oui, non, mais là, vous parlez en diminuant les quantités à l'intérieur des paquets.
À l'intérieur du paquet, qui facialement est toujours le même.
Oui, oui.
L'information, elle n'existe pas ou elle est en tellement petit. Puis on a tellement l'habitude aussi qu'on ne regarde pas les quantités. Les Américains sont beaucoup plus forts là-dessus que nous. Donc, il y a des tricheries imminentes là-dedans.
Oui, il y a des tricheries tout le temps pour essayer de maintenir les marges, c'est sûr. On va en reparler. Autre chose aussi qui est importante et que certains économistes oublient trop souvent, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Tous les agents économiques ne sont pas identiques. Certains peuvent augmenter leur prix de vente ou laisser le même prix de vente en diminuant la quantité dans les paquets, comme vous venez de le dire, et continuer à vendre autant. D'autres non. Certains peuvent augmenter leur salaire ou imposer une augmentation de leur salaire et continuer à avoir un emploi, d'autres non. Certains peuvent diminuer le prix d'achat et continuer à acheter autant à leurs fournisseurs, par exemple, et d'autres non. Donc c'est la différence entre ce que les économistes appellent les faiseurs de prix, price makers, ceux qui ont la possibilité d'influer sur les prix à la hausse ou à la baisse, et les preneurs de prix, les price takers, ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont aucun pouvoir sur les prix. Nous, les consommateurs, nous sommes généralement des preneurs de prix. Quand je vais acheter de l'essence ou quand je vais acheter le pain chez mon boulanger, je ne marchande pas le prix. C'est rare, hein, en tous les cas, sauf exception. Très souvent, en tant que travailleurs, nous sommes pour la plupart aussi des preneurs de prix. Nous ne pouvons pas négocier le prix du travail, c'est-à-dire notre salaire. Ceux qui peuvent fixer les prix, ceux qui sont plutôt des faiseurs de prix, ce sont les entreprises, et plus exactement certaines entreprises, celles qui ont le pouvoir de fixer le prix de vente des produits et des services, de fixer le prix du travail, c'est-à-dire du salaire de leurs salariés.
Il y a quand même, je vous arrête, mais il y a quand même les conventions collectives, et il y a aussi l'intervention de l'État qui fixe le SMIC, le niveau du SMIC. Donc,
certes, les
entreprises ne sont pas toujours libres de faire entièrement ce qu'elles veulent.
Bien sûr, elles sont pas libres de faire entièrement ce qu'elles veulent. On a encore quelques petites limites qu'on est en train de détricoter tranquillement depuis les années 80-90, mais il en reste. C'est vrai, il en reste. On n'a pas encore instauré l'esclavage. Hein. C'est pas encore à l'ordre du jour, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore revenu. Donc, c'est vrai qu'il y a des limites, mais c'est vrai qu'il y a aussi un grand pouvoir hein, de certaines entreprises. Alors, bien sûr, je ne parle pas du petit artisan, je ne parle pas de la PME, encore moins de la toute petite entreprise. Je parle des grandes entreprises les plus importantes dans l'économie, notamment celles qui sont en monopole ou en quasi-monopole. Apple, par exemple, hein, on peut prendre l'exemple des iPhones, même si les prix sont exorbitants, les gens font la queue pour acheter la sortie du dernier iPhone. C'est aussi vrai pour certains biens alimentaires, certaines marques, pour certains vêtements, etc. C'est aussi le pouvoir des entreprises qui vendent des produits ou des services dont on ne peut pas se passer. L'essence, hein, l'énergie en général, indispensable pour aller au travail. Donc, il y a des entreprises qui vont bien parce qu'elles ont une excellente image de marque. Bon, Apple dont je viens de parler, Coca-Cola, Nutella, bon, des entreprises de ce type, parce qu'elles vendent des produits indispensables comme Total, par exemple. Donc, on va dire que ces entreprises, en économie, elles ont un pouvoir de marché. Un pouvoir de marché, ça veut dire qu'elles ont la possibilité d'accroître le prix de vente sans perdre de clients. Alors, ces entreprises, elles peuvent augmenter leurs marges. Parce que qu'est-ce qu'on constate en ce moment? C'est qu'on a inflation et augmentation des marges de certaines entreprises. Qu'est-ce que c'est que la marge? C'est la recette totale moins les coûts de production. Et dans les coûts, il y a les salaires, les biens, les produits intermédiaires, l'énergie, les impôts, les taxes, les cotisations, tous ces coûts de production. Alors bien sûr, les marges ne sont pas identiques d'une entreprise à une autre, d'un secteur d'activité à un autre. On n'a pas les mêmes marges dans la distribution d'essence ou dans le luxe ou dans la culture de tomates. Un secteur où les marges sont extrêmement importantes, et on le sait parfois peu, c'est l'industrie alimentaire. Face à des coûts de production qui augmentent, comme c'est le cas depuis le début de la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'électricité, de l'énergie, des céréales, les entreprises vont avoir trois possibilités. Soit elles augmentent leur prix de vente, mais moins que leur coût, moins que l'augmentation de leur coût, donc elles vont baisser leur marge. Soit elles augmentent les prix exactement au même niveau que l'augmentation des coûts.
Et elles sauvegardent leur marge.
Elles sauvegardent. Soit elles augmentent leur prix de vente plus que leurs coûts n'ont augmenté. Et là, les marges augmentent. Alors, en théorie, parce qu'en économie, on vit beaucoup en théorie, le monde où tout va bien, en théorie, la concurrence pousse les entreprises à baisser leurs marges pour ne pas perdre trop de clients. Donc la concurrence, en théorie, fait baisser les prix. Ou lorsque les productions augmentent, limite leur hausse. Mais ça, c'est la théorie.
Alors nous allons passer à la pratique maintenant. Hein, vous allez nous déflorer la pratique. Mais avant, on fait une première pause musicale pour laisser souffler nos auditeurs, qu'ils se mettent en condition pour entendre la pratique. C'est vous qui avez choisi cette pause musicale, je vous laisse la présenter.
Ben, j'ai choisi un groupe toulousain, parce que voilà, qui me plaît bien, qui s'appelle Macara, et la chanson c'est Monde de ouf.
Yo, ça va mon pote? Tranquille? T'as un mec, faut que je te raconte. Halluciné. Je te jure mon pote, si tu savais t'en reviendrais pas. Rien que l'autre jour on a participé à la marche qu'ils faisaient pour toi. T'aurais vu tous ces gens qui scandaient des slogans, des textes sanglants sur des rythmes entraînants. C'est vrai que cette histoire m'a foutu la haine, la rage. Mais ça fait toujours mal quand elle en provoque davantage. Parce que je sais que t'es quelqu'un de juste, de sage. Tu causais fort mais même une mouche s'en sortait sans dommage. Je te jure mon pote, si t'avais vu, t'es passé à la télé plutôt sans voix qu'une. Ils avaient tous la même photo, dernière image de mon poteau. Mais le pire c'était les fachos qui parlaient de toi comme d'un idiot, hein. Et c'est sûr t'aurais badé sur tous les journalistes qui sans le savoir te qualifiaient de vrais zadistes. Alors que juste cette fois, toi t'as décroisé les bras. Juste cette fois-là t'es pas resté sur ton sofa. En fait c'est juste, injuste, et la justice complice. Par je ne sais quelle malice, aucun malus pour la police. Ce monde devient dingue, on dirait qu'il panique. À cause de ceux qui le déglinguent, des milliers prennent la fuite. Y'a qu'à regarder les gens, personne n'a d'espoir, on est tous intelligents, alors c'est chacun pour savoir. On accuse les dirigeants car on voit tous la fin de l'histoire. La terre elle tourne toujours mec, elle est juste moins belle à voir. On en a marre, comme disait Chicken Jack. Tout ce bordel je crois est bien trop compliqué pour moi. Je te jure mon pote, il faut que tu reviennes. Un jour ou l'autre, je vais me laisser gagner par la haine. Parce que je le hais celui qui a lancé cette grenade. Lui qui a privé toutes nos blessures de leur pommade. Alors j'écris n'importe quoi et je me défonce sur le papier. Je préfère faire exploser ma voix plutôt qu'un mec qui a des idées. Putain et puis je le hais, lui qui n'a pas condamné le coupable. Et lui qui a quand même voulu lancer ce projet minable. Et lui qui tout en haut ordonne le pire à ses esclaves. J'aimerais les pardonner mais à ma place serais-tu capable? Mon pote on est comme toi, on sauve ce qui peut l'être. On se lève et on se bat à coups de musique, à coups de lettres. Ce monde il faut changer et moi que j'arrête de chialer. Putain si tu revenais je te jure mon pote t'hallucinerais. Parce qu'il y a encore des personnes à la rue. Et que les aider encore personne ne l'a pu. Parce qu'il y a des trucs qui méritent simplement d'être vécus. Parce que même à plaisance il y a des choses que t'as pas vues. Des sons que t'as pas entendus, des gens que t'as pas connus. Des vérités que tu n'as pas su mec je te jure c'est trop la vue. Parce que ce monde où t'as vécu ici personne n'en veut plus. Si tu l'avais t'aurais rien eu, si tu le voyais tu serais déçu. Si tu le pouvais très descendu te raconterais tout depuis le début. De toute façon je l'aurais pas cru. Je crois que tu serais perdu. Ce monde où si encore tu le vivais, comme nous tous, te jure mon pote hallucinerait. Ce monde de ouf, si encore tu le vivais, comme nous tous, te jure mon pote hallucinerait. Ce
Voilà, c'était Monde de ouf de Macara, le groupe toulousain, le choix de ma partenaire dans l'émission Economica que vous écoutez, Anisla. Alors jusque-là, vous nous avez expliqué ce que c'était que l'inflation, mais de façon théorique, dans la réalité, qu'est-ce que l'on constate ?
Oui, parce que, donc, comme je le disais, en théorie, la concurrence doit pousser les entreprises à faire baisser les prix. Mais dans la réalité, c'est pas ce que l'on constate. Parce que, simplement, il n'y a pas de concurrence, hein, véritablement. Non seulement les marges dans certains secteurs n'ont pas diminué, ne sont pas restées constantes, mais elles ont augmenté. Les entreprises ont augmenté leurs profits. Au deuxième trimestre 2023, le niveau d'inflation a légèrement diminué et pourtant les marges des entreprises ont bondi. Le taux de marge des sociétés non financières a augmenté de 1,5 point pour atteindre 33,2%.
C'est pas mal, hein,
c'est pas mal.
3,2%, c'est quand même assez gras, on peut dire.
C'est pas mal. Alors, selon l'INSEE, cela s'explique notamment par la baisse du prix de l'énergie. Donc, après l'envolée de 2022, les prix de l'énergie et des matières premières ont diminué cette année, en 2023, sans pour autant retomber à leur niveau d'avant la crise. Mais les entreprises françaises n'ont globalement pas répercuté cette baisse de leurs factures dans leur prix de vente, faisant mécaniquement augmenter leur marge.
Et pourquoi ? Le ministère des Finances, que fait-il ? On a un ministre des Finances assez actif, au moins dans la communication, on va le dire, et puis dans l'écriture de certains livres aussi, mais ça c'est autre chose.
Eh bien, il doit s'occuper de communication.
Voilà, il communique, il écrit ses livres.
Voilà. Et les championnes de cette pratique, c'est là aussi où ça devient difficile, c'est que ces championnes se trouvent dans le secteur énergétique et alimentaire, c'est-à-dire deux secteurs indispensables pour vivre. Donc la hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement, d'après l'INSEE, quasi la moitié de l'inflation totale. Après avoir chuté en 2021, la marge brute de l'industrie agroalimentaire s'est hissée au deuxième trimestre 2023 à 48,5%, un niveau historique. Puisqu'il faut remonter à 1994 pour trouver pareille profitabilité. Alors, il y a un économiste qui a travaillé là-dessus, Eric Dor, qui a calculé que pour chaque secteur, l'origine de la hausse des prix. Entre les deuxièmes trimestres 2022 et 2023, les prix de sortie d'usine de l'industrie agroalimentaire ont progressé de 12,2%. Une augmentation imputable en premier lieu à la hausse des marges, 6,7%. Puis à celle des consommations intermédiaires de l'énergie aux céréales pour 4,6% et plus faiblement de la masse salariale 1,1%. Alors cette tendance ne se vérifie pas dans tous les secteurs. La marge des entreprises de services est par exemple en baisse par rapport à 2022 et encore inférieure à son niveau de 2010. Donc si l'industrie agroalimentaire compte de nombreuses PME, les grands groupes et entreprises de taille intermédiaire concentrent 75% du chiffre d'affaires du secteur, donc une proportion beaucoup plus importante que chez nos voisins européens. Les bénéfices des géants de l'alimentaire expliquent donc en partie l'inflation actuelle.
Oui, mais ces géants alimentaires ne se limitent pas à vendre sur le territoire national français. On les trouve un peu partout, on les trouve en Espagne, on les trouve en Italie, on les trouve en Allemagne. Comment se fait-il que dans ces pays, on ne constate pas le même phénomène ?
Ah, on constate, et ils augmentent leur marge partout, hein. C'est pas que dans les autres pays, on a une... Non, il y a moins de concentration des grands groupes dans les autres pays qu'en
D'accord.
France.
Donc on peut étaler effectivement...
Et... Mais par rapport à leurs marges, elles font les mêmes calculs à l'étranger. Hein. Alors pourquoi peuvent-elles faire ces augmentations de marge alors que quand on rentre dans un supermarché, hein, il y a beaucoup de choix dans un supermarché. Pourquoi on n'achète pas d'autres produits ? Pourquoi on continue à acheter ces produits pour lesquels il y a des marges importantes. Dans les faits, c'est parce que beaucoup de marques appartiennent à la même entreprise, déjà. Et dans le capitalisme, c'est pas le règne de la concurrence, comme on voudrait nous le faire croire. C'est pas la concurrence qui est reine, c'est le règne de la concentration des pouvoirs économiques. Alors, il y a des limites, on l'a vu, hein, sans précédent. La consommation alimentaire, aujourd'hui, a diminué. Ces derniers mois, on a une déconsommation sur les produits alimentaires.
Ça veut dire que les gens regardent quand même, quand ils achètent, ils regardent les prix, ils sont attentifs à ce qu'il y a dans leur caddie, et quand ils passent en caisse, c'est quand même... Les gens, moi, je le vois au niveau, par exemple, des livres, hein, et je suis dans un certain nombre de salons du livre, les gens autrefois regardaient, prenaient le livre et lisaient la quatrième de couverture pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, c'est pas la première réaction. La première réaction, c'est de demander combien vaut-il.
Oui.
Souvent, sur des livres qui vont tourner entre 10 et 15 euros, c'est rarement plus. Mais la première chose, combien vaut-il ?
Et les gens consomment moins de livres et les gens consomment moins de produits alimentaires. On est allé au-delà de faire attention, hein, on est allé même dans la déconsommation aujourd'hui. Du moins pour certains ménages, hein, bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, je parle de ceux qui sont dans le plus en difficulté. Alors derrière l'inflation, il faut bien voir qu'il y a des grands pouvoirs privés, ceux de ces grandes entreprises. Et donc réduire l'inflation, ce serait réduire ce pouvoir de ces grandes entreprises. Ce serait, par exemple, essayer d'accroître la concurrence. Bon, ça, c'est un peu limité. Ce serait de bloquer les prix. Ça a été fait avec le bouclier énergétique, hein, en permettant aux entreprises de faire des marges, mais juste suffisantes pour continuer à produire. C'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'a fait Édouard Balladur en 1986, lorsqu'il a libéralisé totalement les prix. On pourrait aussi envisager de renationaliser les grandes entreprises, comme l'avait proposé le Conseil de la Résistance en 1944.
Oui, mais enfin, bon, renationaliser, il faut des sous, et je crois qu'on n'en a plus trop. Il faut bien leur payer quand même aux actionnaires leur capital. Ça va être difficile, il faut trouver des fonds. On a, je crois, 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, un pognon de dingue que l'on a dépensé. C'était l'expression de M. Macron qui essaye de nous gouverner.
Et on a 100 milliards d'évasion fiscale.
Oui,
aussi.
Alors c'est difficile à chiffrer, mais oui, on a 5 milliards d'évasion fiscale. Oui, c'est ce que à peu près les services fiscaux, les services de la Direction générale des impôts s'accordent à dire. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'arrive pas à éradiquer ce type d'évasion, alors que certains groupes de journalistes internationaux, certes, mais peuvent, eux, sortir des dossiers, les Panama Papers et autres. Ce sont des journalistes qui les ont sortis. Ce n'est pas l'administration fiscale ou des services de répression que nous avons, qui, au niveau international, peuvent être parfois assez actifs. Eh bien là, non, jamais. Jamais. C'est quand même extrêmement surprenant.
Oui, alors il va falloir quand même trouver des mesures. Et si on nationalise pas, au moins mettre des règles extrêmement importantes. Parce qu'en plus, ça ne joue pas que sur l'inflation, hein. Ça va jouer aussi, on va pas réussir à faire de la transition énergétique tant que Total fait ce qu'il veut. On va pas pouvoir faire de la transition énergétique tant que les banques font ce qu'elles veulent, sont les seules créatrices de monnaie et vont donner la monnaie même à ceux qui investissent dans des productions, dans des activités délétères pour la planète.
Dites activité grise.
Oui, une crise noire, enfin, comme on peut mettre la couleur que l'on veut, et ça sera pareil pour le transport ferroviaire, etc. Donc on pourrait réfléchir à des vrais services publics avec des prix discutés publiquement. On pourrait aussi indexer les salaires sur les prix, ça a été fait à un moment donné. Et si on a un salaire indexé sur le prix, l'inflation pose beaucoup moins de problèmes, puisque le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire réel, le salaire de la feuille de paie auquel on a enlevé l'inflation, hein, c'est ça le pouvoir d'achat. Eh bien, le pouvoir d'achat, lui, il reste identique si le salaire nominal suit l'inflation.
Mais si on augmente les... Vous disiez tout à l'heure que, de mémoire, hein, on avait augmenté les salaires de 1,1. Si on augmentait les salaires de beaucoup plus, de 4 ou 5 points par exemple, est-ce que ça ne créerait pas un supplément d'inflation, pardon?
Ah oui, ça c'est toujours la réponse qu'on...
Oui, c'est ce que l'on entend le plus souvent. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette observation ?
Eh bien qu'on n'a qu'à compenser avec une réduction des dividendes. On peut compenser des coûts ailleurs. Et les coûts de l'actionnariat sont bien plus élevés que les coûts du salaire. Et il faut arrêter de parler de salaire comme des charges ou comme des coûts. Un salaire, c'est ce qui permet de produire quelque chose. C'est du travail. Si vous mettez du capital tout seul, il va rien faire, hein. Il faut qu'il y ait du travail. Sans travail, il n'y a pas de production. Donc, si on augmente les salaires, on peut faire des économies, moi je pense, hein, sur le versement de certains dividendes dans certaines entreprises. Et en plus, lorsque les salaires suivent l'inflation, c'est-à-dire lorsque le pouvoir d'achat reste identique, il y a autre chose qui se passe, c'est que les dettes diminuent. Quelqu'un qui a fait un emprunt immobilier, par exemple, cet emprunt, il devient de plus en plus petit en proportion par rapport à son salaire quand vous avez de l'inflation. Donc il y a aussi ça, on pourrait dire, eh bien on accepte l'inflation, mais on va donc faire suivre les salaires et compenser.
Ce que font d'ailleurs un certain nombre de pays, hein, qui ont pris cette politique et qui apparemment ne s'en portent pas trop mal.
Oui, et puis c'est aussi ce qu'on a fait. Hein. Les salaires, à un moment donné, étaient indexés sur l'inflation. Alors, ce que met en lumière, je pense, l'inflation aujourd'hui, donc, c'est ce pouvoir trop important de certains grands groupes, de certaines grandes entreprises, et à l'inverse, le pouvoir de négociation trop faible et même inexistant des salariés qui les empêchent de maintenir leur niveau de vie. Car si les salaires augmentent, le pouvoir d'achat, même en situation d'inflation, ne diminue pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que cette inflation est tellement grave et le pouvoir d'achat est tellement mis en cause qu'on a une augmentation assez importante de la pauvreté en France. Et bien sûr, la conférence sociale qui s'est tenue le 16 octobre dernier n'a apporté aucune réponse à ce problème majeur. Et elle a fait encore plus fort en ne prévoyant aucune mesure contre les discriminations salariales, on parlait de ça tout à l'heure, qui frappent les femmes, les délégués syndicaux, les personnes d'origine étrangère, ou présumées étrangères, etc. Donc, le pouvoir des grandes entreprises et le non-pouvoir des salariés aujourd'hui poussent peut-être à s'interroger sur l'action que devrait avoir l'État, car s'il ne fait rien, si donc le ministre ne s'occupe que de communication, le sentiment d'injustice va augmenter à des niveaux insoutenables et on risque d'avoir des problèmes politiques.
Et alors, vous êtes optimiste sur ce que va faire le gouvernement ? Vous pensez qu'il va vous entendre ou des gens qui soutiennent ces thèses, hein, vous n'êtes pas la seule à le dire ?
Non, je pense pas, parce que ce gouvernement n'est pas du tout dans cette vision-là. Il pense qu'il faut laisser faire le marché, que l'inflation, c'est un déséquilibre momentané qui va se rétablir, etc. Ils sont encore là-dedans, que la concurrence existe, etc. Donc, ils sont en plus complètement dans une politique de l'offre. Hein. Il faut que les entreprises diminuent leurs coûts, etc., augmentent leurs marges. Donc, je suis pas optimiste avec ce gouvernement-là, non.
Alors oui, on peut parler de gouvernement, on peut parler de président de la République, parce que le gouvernement, oui, on l'a vu, a quand même assez peu de marge de manœuvre. Il est à la botte du président de la République, qui par ailleurs doit naviguer dans des eaux agitées, puisqu'il n'a pas la majorité au Parlement.
Oui, mais...
Non, donc nous avons encore 4 ans, et puis après, qu'est-ce qui se passera dans 4 ans ? Je ne sais pas, bien malin qui pourrait le dire. Voilà, c'était le point de vue d'Anisla sur l'inflation. On va digérer un peu tout ça en écoutant Bernard Lavillier, Cyril Mokayesh. On va rester un peu quand même dans le thème, ça s'appelle la loi du marché.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser, à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années.
Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé.
Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays.
On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
De quoi vous distraire pour quelques années?
De quoi vous distraire et vous en aller?
Vous distraire et vous en allez.
De quoi vous distraire et vous en allez.
Voilà, La loi du marché par Bernard Lavillier et son complice Cyril Mokayesh. Alors nous arrivons dans la dernière ligne droite de notre émission, quelques rubriques de fin d'émission. On va parler de l'économie en Occitanie. On n'a pas toujours d'ailleurs toutes les informations qu'on aimerait avoir entre la CCI, l'INSEE, la région. C'est jamais très clair et jamais très détaillé. Mais enfin, on a le bilan de l'année 2022 qui a été présenté par l'INSEE. Et que nous dit l'INSEE? Ben, il y a moins d'activités et il y a davantage de salariés. Allez comprendre, peut-être Anne nous l'expliquera. En tout cas, l'activité économique a ralenti dans la région, mais ça c'est pas original, elle a ralenti aussi au niveau national. Elle a été marquée par la vague Omicron du début d'année, elle a par la suite été impactée par les confinements en Chine et la guerre en Ukraine. L'emploi salarié a quand même continué à augmenter en France de plus 4,5% entre la fin 2019 et la fin 2022, notamment grâce à l'apprentissage. En Occitanie, le nombre de salariés a lui augmenté de 1,4% sur un an, donc à peu près 30 400 salariés supplémentaires, essentiellement grâce à la construction aéronautique et spatiale. Fin 2022, on recensait en Occitanie 2 183 200 salariés. L'emploi est aujourd'hui supérieur à son niveau de fin 2019 dans la région. Et le chômage, nous dit-on, est en baisse. Il aurait baissé de 0,3 points en 2022 en Occitanie, après une baisse de 0,6 points en 2021, dans la région d'ailleurs comme en France. Et aujourd'hui, il s'établirait à 8,6% de la population active, soit 1,1 point de moins qu'avant la crise, donc fin 2019. Au quatrième trimestre 2022, la région comptait 546 670 personnes inscrites à Pôle emploi, alors dans toutes les catégories, A, B ou C. Et l'Occitanie est néanmoins la deuxième région de France où le taux de chômage est le plus élevé après les Hauts-de-France. Donc, sommes une belle région, nous avons des dirigeants très actifs, en tout cas très médiatiques pour tout le moins, mais sur le plan du chômage, il y a encore beaucoup à faire, surtout qu'on constate, décidément, j'ai un peu de mal sur cette fin d'émission, j'ai été absolument subjugué par la sortie d'Anne sur Dominique Seux, je ne m'en suis pas remis. On constate que les créations d'entreprises sont en recul, on a eu en 2021 une année record, 96 400 entreprises créées en 2022. Alors après, il faut savoir exactement quelles sont ces entreprises. On a un certain nombre de petits entrepreneurs indépendants qui viennent augmenter les chiffres, mais qui ne tiennent pas très longtemps. Par contre, la filière aéronautique, mais on peut dire qu'elle redécolle, excusez-moi du mot. La construction de logements est-elle en chute? Et le tourisme a été essentiellement cette année porté par les campings pendant que l'agriculture était victime de la grande sécheresse de 2022, qui fut l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début du XXe siècle. Mais je crois que nous allons faire mieux dans les années à venir, très vraisemblablement. Voilà pour quelques informations sur notre Occitanie. Rubrique culturelle, conseil culturel. Anne, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire, de voir, d'écouter ?
Alors, après Les Glorieuses, oui. Je vous propose un ouvrage d'Isor Gratacos qui est réparu, il était sorti en 1996. Il a été actualisé cette année, Femme dans les Pyrénées, une identité perdue et retrouvée.
Gratacos, c'est pas grec. Hein,
Isor Gratacos, non, c'est pas grec, c'est Comminges, elle vient du Comminges. Mais c'est un livre très intéressant parce que ça retrace avec passion et impertinence la geste des femmes pyrénéennes. Et elle montre à travers les nombreux témoignages recueillis pendant plus de 20 ans sur le terrain que les femmes ont eu dans les Pyrénées centrales et occidentales un statut peu fréquent dans l'histoire, celui de l'égalité avec les hommes. La domination masculine n'existait pas dans la coutume. Leur vie sociale, culturelle et sexuelle est marquée par des coutumes originales qui ont gardé encore aujourd'hui une grande actualité.
On constate encore cela dans le Comminges.
Oui, qui prétendait l'homme pyrénéen macho et dominateur, qui prétend encore que l'homme dominait les structures sociales et culturelles de ces villages, car dans les Pyrénées, les femmes ont eu et ont encore un rôle qu'il est rare de rencontrer ailleurs en Europe.
Une présidente de région qui vient du Comminges, donc voyez.
Voilà. Dans ces vallées des Pyrénées centrales, se sont conservées des caractéristiques anthropologiques tout à fait spécifiques que l'on retrouve uniquement au Pays Basque, dans le nord de l'Europe et dans le Caucase. Par exemple, il y avait un droit d'aînesse absolu, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'être l'aîné, même si on était une femme. Par exemple,
nous étions très très en avance finalement ici.
Très en avance, voilà. Appuyé sur une mythologie vivace et savoureuse, la vie sociale, culturelle et sexuelle des femmes pyrénéennes est marquée donc par des coutumes originales qui ont gardé de nos jours une grande part de leur actualité et de leur fonction.
Mais on ne les paye pas plus que les hommes, on les paye toujours moins quand même.
Oui,
hein. C'est ça, hein,
ouais, il faut,
c'est ce que Dominique Seux nous m'a dit. Hein.
Non, on Dominique Seux, il dit qu'on est payé pareil.
Bon, moi, je vais vous parler d'un homme que j'aime beaucoup, qui a une aura importante à l'étranger. Alors, c'est souvent nos grands intellectuels comme ça, notamment aux États-Unis. C'est un universitaire, c'est un professeur de droit, c'est un sociologue. Il s'appelle Jacques Ellul. Il est né en 1912 et il est mort en 1994. Il a été extrêmement abondant. Alors, juste, moi, je vais vous citer un livre aujourd'hui qui m'a passionné, mais il a eu une grosse, grosse production. C'est un monsieur qui a, il y a 60-70 ans, qui avait déjà tout compris, tout dit, tout écrit avec ses complices, hein, Charbonneau, avec Illich, avec quelques autres. C'est très curieux quand on les lit, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui nous pose problème aujourd'hui, ces gens l'avaient identifié, ils l'avaient dit. On aurait pu les écouter, mais on a fait le choix de les mépriser, parce que c'est un peu souvent ce qui est arrivé. Donc, citer quelques livres de Jacques Ellul, par exemple « La technique ou l'enjeu du siècle »,« Le système technicien ». Ces livres sont un peu aujourd'hui au purgatoire, mais bon, ils rencontrent quand même la conscience écologique d'un nouveau public. Donc, le bluff technologique, il faut absolument le lire. C'est un livre qui est très, très abordable. Je vous l'avais chez Pluriel, à un prix qui, lui aussi, est extrêmement abordable. C'est le grand classique de la critique de la technique. C'est plus un plaidoyer contre l'asservissement des individus au progrès technologique et ses applications socio-économiques que véritablement une critique de la technique. C'est un ouvrage qui constitue un manifeste pour que cette technique soit désormais au service de l'homme. Alors, bon, lisez le livre si vous en avez la patience et le temps, mais vous allez prendre un plaisir infini à la lecture, c'est très bien écrit, un plaisir technique, un plaisir intellectuel. On se sent un peu plus intelligent quand on a lu Jacques Ellul. On se dit, un peu comme disait le commissaire Bourrel, les plus anciens me comprendront, bon Dieu, mais c'est bien. Bien sûr, cet homme a raison. Ce livre que je vous citais, en plus, a été préfacé par Jean-Luc Porquet, qui est également un bon connaisseur d'Ellul, hein, Jean-Luc Porquet, dont vous pouvez retrouver les articles dans Le Canard enchaîné, que je cite souvent. Et c'est l'auteur de Jacques Ellul, l'homme qui avait presque, c'est entre guillemets, tout prévu, cette audition, aux éditions Le Cherche Midi. Donc je vous rappelle le titre, le bluff technologique, Jacques Ellul chez Pluriel, un grand plaisir de lecture et on a l'impression, mais c'est pas qu'une impression, d'être plus intelligent quand on aura fermé le livre. Et Anne nous a parlé de « Femmes dans les Pyrénées, une identité perdue et retrouvée » de Isor Gratacos aux éditions Priva en 2023. Il y a une réédition actuellement actualisée hein, sur « Femmes pyrénéennes, un statut exceptionnel en Europe ». Donc, vous vous rendez compte, nous sommes à la pointe. Voilà, c'était... Bah, nous sommes arrivés au bout de notre causerie économique, Anne. Merci, merci à celui qui était aux manettes, Léo Touroul. C'était une émission, vous l'avez compris, de Anisla et de Jacques Lavergne. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. Et nous, nous nous retrouverons très bientôt, Anne, pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.
Belle journée. Au revoir.